La vie a repris sa vitesse de croisière jusqu'aux prochaines vacances, une croisière qui va s'avérer mouvementée puisque la dernière fois que le gouvernement nous avait dit qu'on allait en baver, eh bien c'était pour le Covid. Et il a eu raison. Du coup, là, on se demande si bientôt, on va dire, c'était mieux avant. Mais avant, eh bien, on va positiver et attendre l'après en écoutant CMA. Bonsoir et bienvenue en CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Ce soir, vous allez trouver chaussures à votre pied si vous avez un peu de temps libre. Pour nous réveiller, eh bien, on va faire du sport à l'ombre d'un arbre. Inutile de garder la capote, beau temps sur les chroniques de ce soir. Sommaire. Quand un sujet la botte, elle prend son pied. Bonsoir Caro.
Bonsoir.
On parle de quoi?
Et oui, alors ce soir, nous allons parler ensemble d'un presque un objet mythique, hein. C'est la Santiago.
Ah!
Ah oui, c'est culte quand même.
Ah bah oui, c'est très très culte, très très culte. Le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver, telle est sa devise. Bonsoir Robin.
Bonsoir.
Quel est ton sujet?
Eh ben moi, je vais vous parler du temps libre.
Ah.
C'est pas parce que je suis feignant, attention.
Non, j'ai rien dit. Hein. À la dernière émission, il en avait une petite jaune. Il revient avec une grosse rouge ce soir. Bonsoir Nicolas. Joue à quoi?
On va jouer au basket.
Ok, très bien. Et dans cette première partie, le Graal nous dira pourquoi l'alphabet commence par un A, puis un B, puis un C. Un beau programme donc, mais la suite sera aussi passionnante avec Titouan, Sandra et Manu. Bonsoir tout le monde. Et on se retrouve tout à l'heure. On est donc fin prêt pour la première partie de CMA. Avec ou sans Tiag, elle adore la peau de bête. Voici la chronique de Caroline.
T'as les bottes, mon pote, elle me botte. Je parie que c'est les Santiag, viens faire un tour dans tes reins vagues. Je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo. Je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton.
Eh oui, Santiag, forcément.
Bah oui, obligé, c'est culte. Hein. Cette ville est trop petite pour nous deux, cow-boy.
Oh, qu'elle joue bien.
C'est ma voix de cow-boy.
Ah ouais, non, je vois bien, je vois bien.
Ouais, et c'est issu de quel film dessin animé?
Oh bah, ça, il y en a beaucoup, hein, qui pourraient être...
Toy Story.
Ah bon?
Bah oui, c'est quand Woody, le shérif, découvre Buzz l'éclair.
Ok.
Bah oui,
j'avais vu Toy Story.
Ah ouais, t'es trop vieux.
Ah non, c'est pas possible.
Non, c'est juste que j'ai pas une
bonne enfance. Il y en a 4 quand même.
J'ai une enfance triste, c'est tout.
Ah bah oui, je vois ça. Oui,
bon bah voilà, et bah du coup, t'as une réplique de Toy Story, tu pourras ressortir un dîner, c'est très pratique. Et oui, d'où vient la Santiago? Eh bien, elle arrive tout droit des États-Unis, pas vraiment de surprise, au 18e. Alors après, il faut savoir qu'il y a deux gros États qui se disputent les origines, le Texas et le Kansas. Pour de vrai, c'est vraiment au Mexique et dans la ville de Santiago, d'où le nom, que l'on a trouvé premières paires de Santiago. En effet, les vaqueros, qui sont l'équivalent des cow-boys mexicains, sont venus au Texas pour garder le bétail. On les faisait venir comme main d'œuvre. Voilà. Donc la Santiago était déjà dans leur culture et ils se l'étaient déjà appropriée. Donc ils l'ont fait venir et évidemment... Aux États-Unis, ça a fait un tabac pour les gardiens de bétail américains. Parce qu'elle est robuste, elle est fonctionnelle, et ça donne un petit côté un peu...
Mais est-ce qu'elle est agréable à porter? Ça a l'air quand même relativement rigide.
Alors, c'est rigide, mais c'est plutôt... Non, c'est plutôt agréable, c'est plutôt pratique.
Mais alors, ça veut dire que les Américains, ils ont à la fois le jeans, qui est pratique parce que c'est résistant, les Santiago parce que c'est pratique et résistant, et ils sont pas cons. Hein.
Oui, c'est que des choses...
Oui, ça part toujours d'une base un peu
Ils sont habillés en travail tout le temps, quoi.
Ils ont le 4x4 aussi qui est pratique et résistant.
Voilà.
Aussi.
Et donc, tous les États-Unis ont adopté cette mode. Alors, celle d'aujourd'hui, celle véritablement que l'on connaît, elle a été plus modifiée et elle ressemble plus en fait à celle qui a été créée fin de la guerre de sécession, en fait. Mm-hmm. Voilà. Alors, la caractéristique de la Santiago. Alors, le but premier, c'était monter à cheval, évidemment. Donc, il fallait qu'elle ait un bout fin pour rentrer dans les étriers. Il fallait qu'elle soit résistante, puisque garder le troupeau, ça durait tout le temps, en fait. C'était toute la journée, pendant des heures, sous une chaleur de plomb. Alors, il y en avait des basses ou des hautes, selon le métier qu'on faisait.
Ah, il y a des Santiago basses?
Oui.
Tiens donc.
Des basses, basses.
Alors ça?
Alors, les hautes, en fait, servaient pour les étriers, protégées du frottement aussi avec le cheval, mais également elles protégeaient des épines, puisque ce sont des états où il y a beaucoup de cactus. et de plantes qui piquent.
Et si le cheval frottait un cactus, donc comme ça, ça permettait de...
Voilà,
d'accord.
Exactement. Et aussi et surtout pour se protéger des serpents.
Ah oui.
Voilà, cela empêchait véritablement une morsure de serpent.
Alors, ils se vengeaient bien parce qu'il y en a en peau de serpent.
Exactement, je vais le dire après.
D'accord.
Alors, il ne faut pas confondre avec des bottes de l'époque qu'on appelait des cordiers. Alors, je connaissais pas moi, personnellement. Elles avaient le bout arrondi, le talon haut et qui était plus biseauté en fait.
D'accord.
Voilà. Alors maintenant, il faut savoir que la différence entre une Santiago classique des États-Unis et une Santiago mexicaine, c'est le talon biseauté justement. On la reconnaît exclusivement comme ça. Ça fait un petit talon un petit peu penché.
D'accord.
Ah oui, c'est vrai.
Ce qui donne une démarche, en fait, ce qui donne la démarche un peu particulière et qui donne une stabilité un peu différente. C'est très particulier de porter des Santiago.
C'est bizarre parce que quand c'est biseauté, c'est qu'elle est usée normalement. Donc là, elle est pré-usée alors
En fait, elle n'est pas usée, elle est juste taillée vraiment, vraiment très en bien en fait.
Qu'on puisse bien marcher, le talon tapé
par
terre.
Et c'est ça qui donne un petit peu l'allure, etc.
D'accord.
Alors évidemment, elle devait être résistante puisque les terrains pour les vaches, le bétail, etc., c'était quand même des terrains de sable, avec beaucoup de cailloux, etc. Donc il fallait vraiment une botte qui soit quand même résistante, mais c'était quand même un petit peu stylé déjà pour l'époque. Non,
oui,
les garçons,
oui.
Vous en porterez et... Vous en portez peut-être.
Non, j'ai un ami qui fait de la danse...
La country.
La country, c'est ça. Avec ça, donc oui, je connais.
Ah, c'est marrant.
Et moi, ça me tente pas du tout.
C'est vrai?
Ah non.
Mais il n'y a pas les petits trucs piquants derrière qu'on met pour le cheval, avec les petits trucs qui tournent là?
Ah bah oui, oui.
Les éperons,
éperons
c'est ça, ouais.
Exactement, ouais. Oui, bah oui, c'était pour le cheval et tout, mais après, ouais, c'est moins pratique quand même. Alors, on les trouve en quelle matière? Évidemment, c'est du cuir de vachette, mais on peut en trouver également en peau d'alligator, qui a été très à la mode dans les années 60-70, en peau d'autruche, en peau de serpent, et certains les fabriquaient même en peau d'ananas.
Ah oui.
En peau d'ananas, voilà.
On peut
prenait
faire du
un
cuir
petit
d'ananas.
Peu ce qu'on trouvait, ouais. Et c'est très résistant. C'est très résistant, ça forme une espèce de coque en plus avec les, comment dire, les espèces de petits V là, décalés qu'il y a sur la peau d'ananas, quoi. Vous voyez, quoi. Enfin bref, la Santiago, c'est quelque chose d'artisanal. Elle se patine avec le temps et gagne du coup en charme. Certains la préfèrent vraiment au fil des années. Alors évidemment, elle a eu un gros succès dans les années 30-40 avec les western spaghetti, Hollywood, John Wayne. Et alors le petit John Wayne... pas fou, il a rajouté un petit peu sa Hollywood touch là-dessus et il a modifié les motifs que l'on trouvait sur les Santiago. Il rajoutait des petites paillettes, il rajoutait parce qu'il fallait que ça claque un peu, quoi.
D'accord.
Il fallait que ça pouvait pas être juste noir ou juste...
Normalement, elles sont plus sobres, c'est ça?
Oui, elles sont plus sobres ou alors bicolores, c'est vraiment, voilà, avec un petit anneau de fer sur le devant ou au pire sur l'arrière. C'était les seules fantaisies, mais avec Hollywood, on a trouvé des paillettes, des strass, des couleurs différentes, des clous et ouais, plein de couleurs, quoi. Et ça, c'est arrivé avec les westerns de l'époque, quoi. Le Bon, la Brute, le Truand, Clint Eastwood, etc., etc. Donc la Santiago est devenue fantasy à cette époque. Alors les années qui ont suivi, elle est devenue le symbole de l'Amérique, de vraiment avec le jean, les vis, etc., le cliché. Évidemment, le créateur principal, le plus gros créateur américain qu'on connaît, Ralph Lauren, s'est approprié la Santiago, donc on le retrouve quasi à chaque campagne de pub, quoi. C'est vraiment connoté très américain. Alors en France, il y a eu la vague avec la chanson Renault, lesbéton, obligé, avec le petit style bandana qui correspond aux mêmes années et à la même culture, quoi. Le bandana rouge, la petite veste en jean Levi's, hop, et puis on était un petit peu le rebelle, le blouson noir de l'époque.
C'est ça.
Voilà. Alors aujourd'hui, qu'en est-il de la Santiago? Eh bien, elle revient en force à cette rentrée.
Oh mon Dieu, non.
Et oui, elle revient en force. Elle revient en force. Alors comment on peut l'adapter? Eh bien, soit on fait un petit style bohème un peu chic avec des robes longues à fleurs.
Ah oui, le fameux bohème chic.
Le bobo chic, ouais.
Parce que c'était aussi pour femmes. C'était pas les femmes en portaient aussi.
Ah bah oui.
D'accord.
Ah oui, oui, oui.
Non, mais des fois, on pourrait imaginer que c'était réservé aux hommes ou non.
Non, bah après, c'était plus des travaux d'hommes.
C'est ça, voilà.
Donc,
mais aujourd'hui,
les femmes qui ont fait ce travail ou qui travaillaient même dans les ranchs ou dans les choses comme ça avaient déjà le jean. Et
d'accord, et les Santiago,
voilà,
aussi.
Et les Santiago. Ou alors, on peut faire un petit style rock, un peu à la Renault. On peut retrouver un peu ce côté-là avec un petit perfecto ou quelque chose. Mm-hmm. Alors là, à la rentrée, la Santiago qu'il vous faut, et elle existe même pour enfants, c'est la Santiago blanche.
Ah
voilà,
bon, pas salissant du
petit
tout.
Point, ouais, ouais. Petit point mode du jour, et on la retrouve à Zara d'ailleurs pour les enfants.
D'accord.
Donc n'hésitez pas, la Santiago maintenant,
si,
c'est
si, hésitez.
Tous les âges, du plus petit au plus grand, on adopte la Santiago.
Merci Caro, je ne sais pas si on l'adoptera, on verra bien. Bon.
Ça se tente. Oui, prochaine émission.
Ouais, on verra. Dans un instant, on prendra du bon temps pour faire un panier, mais là, il est l'heure du Graal. Bertie nous demande pourquoi l'alphabet commence par un A, puis un B et un C. Bref, mettons les points sur les I et laissons le Graal y répondre.
Question de Bertil, pourquoi l'alphabet a cet ordre-là ?
C'est l'ABC des questions. On y répond à la lettre. Notre alphabet vient des Romains, qui l'ont piqué aux Étrusques de Toscane. Peuple qui lui-même l'a piqué aux Grecs, qui eux-mêmes se sont largement inspirés des Phéniciens, vivant dans l'actuel Liban il y a plus de 3000 ans. Tout cela est très vieux, mais a évolué d'un peuple à l'autre. Pour reprendre ta question sur l'ordre des lettres, il n'a finalement pas beaucoup changé depuis les Phéniciens. Le A est le son de Aleph, qui signifie bœuf. D'ailleurs, la forme du A est une tête de bœuf à l'origine. Le B, qui ressemble à une porte, celui de Beth, qui veut dire maison. La proximité des lettres est donc aussi celle de la proximité des choses. La paume de la main tenait le bâton. En lettres, le K, Kaf, la paume, était avant le L de l'Amed, le bâton. Et pour les dernières lettres, eh bien c'était souvent les dernières créées, tout simplement. C'était le Graal. Si vous souhaitez poser une colle au Graal, eh bien envoyez un message depuis la rubrique contact du site radio-g.fr. On a souvent le temps de rien, sauf pour scroller, swiper et liker. Alors avant que ça existe, avait-on plus de temps libre alors ? Eh bien on va voir ça avec un spécialiste de la glandouille. Voici la chronique de Robin. Si on n'a pas compris le titre de la chronique, Robin.
Non mais c'est ça ce que j'aime bien avec tes chansons, c'est qu'il y en a une sur deux, j'étais pas né.
Celle-là, moi non plus, je sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient, hein, mais en tout cas, ça parle de temps libre.
Ah oui, bah alors justement, le temps libre, la paresse, oh là, avec quel beau mot. Rester dans son lit, dans son canapé, aller marcher dans un jardin, regarder les oiseaux, tout ça, bah justement, ça fait partie du temps libre. Évidemment, on peut se dire, ah bah c'est quand même vachement mieux avant, quand on était tout nu, qu'on courait dans les fourrés et tout.
Avant, t'étais comme ça, d'accord.
Non mais voilà, mais on pourrait se dire ça, mais justement, je vais faire un petit point histoire, on n'est pas sûr que c'était mieux avant, justement. Est-ce que ça serait pas mieux après ?
Ah.
Non mais du coup, déjà, comme je le disais dans ma dernière chronique, faut bien replacer dans le contexte. Quand on était une élite à l'époque, genre les pharaons ou bien les rois, etc., ont pas du tout le même principe du temps libre que ceux d'en dessous. Mais enfin, donc selon les spécialistes, les humains qui vivaient de la cueillette et se baladaient à poil, donc hein, comme je vous disais...
C'est le Néandertal, là,
Oui, on pourrait croire avec nos amis hippies, mais non, effectivement, ouais. C'est les chasseurs-cueilleurs. Eux, bah, en fait, ils avaient pas mal de temps libre, au final, ça va.
Bah, la télé, enfin, marchait pas beaucoup, en fait. Canal Plus avait déjà coupé à l'époque.
Ah ouais, non, ils avaient pas TikTok.
Non plus.
Oh là là. Non, après, bon, ça y est, la civilisation arrive avec nos amis les Égyptiens et leur vie complètement servile. Pas de pavillon hein, pour jouer avec le chien qu'on finit de construire la pyramide. Et non, ils avaient des villes à côté de leur construction pharaonique, faramineuse, les deux. Hein. Mais du coup, bah, ils étaient à côté du travail pour travailler donc plus tôt et terminer plus tard. Le rêve de tout patron. Heureusement, ça, c'est que à l'époque antique. Ah non, pardon, on me dit que aux États-Unis, avec justement la construction des usines, c'était pareil. Oups! Eh oui, et on le lit très bien dans le livre La Jungle d'Upton Sinclair, un super témoignage de cette période-là, où en gros, il nous raconte que des travailleurs d'usine à Chicago font 12 heures par semaine, 11 heures par jour, pardon.
Par jour, oui, ouais, parce que semaine, sinon c'était pas beaucoup.
Ouais, 12 heures par jour, dans un bruit infernal, dans le froid, et le peu de temps libre qu'ils ont, ils l'utilisent pour faire les comptes, pour savoir s'ils peuvent payer leur logement.
Super.
Ah non, c'est...
Ouais, ça donne envie.
Ouais, et l'autre option, du coup, de leur temps libre, c'est d'aller dans les bars à côté de l'usine pour,
dépenser
boire
le
peu
qu'ils ont, quoi.
Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment une vie catastrophique. Donc, le temps libre, pas trop ça. Mais bon, on parle des 12 heures par jour, hein, donc pour aussi. Les adultes, mais les enfants aussi, eh oui, le temps libre pour les enfants, non, on connaît pas. Donc, c'est pourquoi on peut lire, sur les journaux intimes de cette époque, certains enfants qui pensent déjà à mourir.
Ils avaient déjà...
C'est dramatique.
D'accord.
Bah, quand on a une vie que de travail et sans temps libre, justement... Bah,
oui, mais ça veut dire qu'ils avaient conscience quand même de ça, parce que des fois, les personnes, ils naissent et puis on les met tout de suite au travail, tout ça, ils savent même pas ce que c'est que le temps libre,
bah oui, mais
pour qu'on puisse en avoir, mais ils avaient quand même conscience de ça s'ils avaient envie d'en finir. Quoi.
C'est ça, bah oui, mais c'est comme les esclaves, quelle que soit leur époque, c'est dramatique, hein. Ils ont conscience qu'ils n'ont pas de temps libre. Ils n'ont pas le temps de se poser.
Que d'autres pourraient en avoir, du coup.
Et Heureusement, en Europe, c'est à peu près au 19e siècle où le temps libre se démocratise. Aux États-Unis aussi un petit peu, mais c'est différent. Donc même si la classe des travailleurs, comme le dit Marx, se développe fortement, il y a aussi une classe de bourgeois qui émerge. L'élite noble n'est plus la seule capable de passer du temps en campagne, faire les grands repas et autres raffineries. C'est pour répondre donc à ce nouveau temps libre de cette classe bourgeoise que des parcs sont créés. À Paris, à Londres, dans les années 1950-1960. 1800, ouais. 1850.
Donc avant, il n'y avait pas de parc en fait. On allait en forêt, ça, mais il n'y avait pas
avant,
de parc.
Les parcs étaient privés, comme le jardin des Plantes,
jardins,
qui était un parc privé.
Okay.
C'est voilà. Non, mais c'est... Et donc il y a beaucoup de parcs qui sont construits, on vient y flâner, discuter, et on n'avait pas encore de temps libre. C'était, enfin, c'est le début du temps libre. C'était il y a 150 ans, c'est pas longtemps. Bon, encore, il faut attendre les années 1930 pour que les Français obtiennent, avec le gouvernement du Front Populaire, de Léon Blum, bah, un petit peu d'histoire tout de même, les premiers congés payés. Donc, on connaît les vacances, etc. Ce qui permet justement aux plus précaires d'avoir des vacances. Parce qu'avant, si t'as pas le temps de faire des congés non payés, bah t'as pas de vacances. Donc, les plus précaires n'avaient pas de vacances. Et on peut rajouter donc à cela aujourd'hui, enfin les deux jours qui se banalisent avec la tertiarisation des emplois. Enfin, aujourd'hui, dans les années 1970, à peu près.
C'est-à-dire les emplois de bureau, hein, c'est ça que tu veux dire.
Exactement. Mmh. Plus on travaille dans les bureaux, plus on a, du coup, le temps en week-end de flâner, plus on va consommer, du coup, dans des divertissements. Et donc, plus il y a de l'emploi dans le divertissement qui se crée. Donc, ça change encore l'économie du pays. Et donc, merci au week-end de deux jours. Et bon, je terminerai justement en niant que ce week-end de deux jours est aujourd'hui... en train de changer, parce qu'il y a énormément de Français qui sont favorables à l'ouverture des magasins le dimanche. Sauf que pour ouvrir les magasins le dimanche, il faut qu'il y ait des employés le dimanche. Donc, le temps libre est toujours en évolution.
Très bien, à surveiller, effectivement. Une bonne, oui. Voilà, vous avez du temps libre aussi autour de la table, ou vous êtes vraiment surbooké tout le temps à travailler vos chroniques et tout?
Ouais, uniquement pour les chroniques.
Oui, je pensais aussi. Ouais. Bon, d'accord, ben on va pas insister. Très bien, merci en tout cas. Certains font des courses qu'ils mettent dans des paniers. Ce soir, ils parlent d'une autre façon de faire des courses avant de mettre dans le panier. Voici la chronique de Nicolas. Yeah. Ah, est-ce que tu as la référence?
J'ai pas la ref.
Bah, c'est la musique officielle de l'équipe de, je sais plus quoi, de, voilà, pour un tournoi.
J'ai toujours pas la ref.
D'accord, c'était très très précis. Mais j'y connais rien, moi, mais c'était marqué musique officielle. Alors j'ai dit, tiens, je vais le mettre. On sait jamais, il peut le savoir.
Oh, bah, j'ai
voilà,
pas la
mais
ref.
C'est de écoute, basket, en tout cas.
Non, mais on apprend tous les jours avec.
Et puis on note en plus que tu es. Alors c'est la radio, alors, donc faut le dire.
J'ai fait exprès.
Tu as un maillot
semaines,
de basket.
Je prends quelque chose en lien avec la chronique.
D'accord. Voilà. Mais ils mettent rarement des t-shirts en dessous, mais ça c'est.
Oui, ils mettent rarement des t-shirts. Il y en a qui le font.
Ah, qui font, d'accord.
Que les gens de très mauvais goût le font, j'en fais partie. Après avoir parlé de sport auto, de tennis et de course à la voile, j'ai décidé de m'attaquer au sport collectif. Et dans ma volonté de vous parler de ces sports méconnus ou sous-estimés, j'ai décidé de revenir sur l'histoire du basket. Le basket, c'est un mix entre de l'adresse, de la technique, de l'intelligence et de la force physique, faisant s'affronter 10 joueurs, tous plus grands les uns que les autres, avec une grosse balle orange pour la mettre dans un panier. Alors comment on en est arrivé là ? Alors c'est né au début des années 1890.
Dit comme ça, ça donne envie. Hein.
Ah ouais, ça donne très envie. Il fut créé par James Naismith, un professeur d'éducation sportive qui voulait inventer un sport pour maintenir la condition sportive de ses élèves entre les saisons de football américain et de baseball durant l'hiver. Donc un sport en salle. Il voulait créer un sport collectif, mais qui limitait les contacts pour éviter les blessures. Rapidement, il lui vint l'idée de disposer deux paniers de pêche à 3,05 m de haut, c'est très précis. Le but étant que les deux équipes rentrent le plus de fois possible le ballon de foot, oui, parce qu'il n'y avait pas de ballon de basket, hein, on a pris un ballon de foot, dans le panier. Donc ce fut un très grand succès et les élèves ont adoré ce sport. Malheureusement, ce ne fut pas réciproque. Vous savez, quand on dit j'adore ce sport, mais lui, il m'aime pas quand on est nul
avec
ce dernier.
C'est
ça. Eh ben, c'est un peu, je pense que cette expression, elle a été inventée spécialement pour le premier match de basket de l'histoire.
Bah, surtout si les règles n'étaient pas encore bien établies.
Bah, c'est ça,
ouais,
c'est que c'était un gros match test en fait.
Oui, d'accord.
Tant il fut un échec d'un point de vue performance. Seulement 6 petits points marqués et un score de 5-1 en faveur des élèves contre les enseignants. Malgré ce score désastreux, ce match est d'une grande importance pour la suite du basket. C'est à partir de là qu'on établit les 13 règles fondamentales du basket, appelées très sobrement les 13 règles originelles. Mmh. Oui, on dirait le nom d'un livre maudit d'Harry Potter. C'est très bizarre.
Et ça date donc du début du XXe siècle.
C'est ça, exactement. Donc à ce moment-là, on a commencé à mettre les règles, à mettre les terrains, etc. Et à ce moment-là, donc là je disais, c'est un panier de pêche. Donc il n'y avait pas de trou dans le panier. Donc quand on mettait un panier, il fallait aller chercher. Récupérer après. Il n'y avait pas de planche derrière le panier, donc on pouvait pas céder de la
planche. Ah, en plus, ah oui. Ah oui, c'est très vraiment compliqué.
Donc on dirait le livre d'un... Voilà. Donc, alors perso, moi je trouve que le basket, c'est un peu comme le rugby, c'est un sport où tu comprends pas vraiment toutes les règles.
Ah, je confirme, oui.
Et où tu dis, ouais, mais là il y a faute, alors qu'en fait, t'en sais pas du tout. Mais dans ces règles établies en 1890, la majorité sont encore présentes aujourd'hui. Parmi elles, l'interdiction de courir en tenant la balle, ce qu'on appelle un marché. Et il y a encore aussi les fautes offensives et défensives, donner des coups, etc., qui sont restées.
Mais tu peux courir en la faisant, en la dribblant, c'est ça ?
C'est ça, en dribblant. Mais par contre, si tu fais plus de 3 pas...
En la touchant en permanence, ça marche pas, c'est ça. Faut pas la toucher en permanence.
C'est ça. En fait, faut pas la garder dans les bras. Faut la faire rebondir.
Faut la faire rebondir, ça compte pas. Quand elle rebondit, c'est comme si on la donnait, mais
c'est
on
ça.
La garde, d'accord.
Exactement. Donc elles définissent aussi la durée d'une partie avec 4 cartons de 12 minutes, le système de temps mort qui permet de faire pause à n'importe quel moment du jeu, etc. On va pas revenir sur toutes les règles du jeu,
sinon ça va
être très très long et très compliqué. Le sport se développe quand même assez facilement dans le monde et traverse les frontières, notamment en Europe et en France, où le premier match européen est joué à Paris en 1893, dans le quartier de Montmartre, où se trouve aujourd'hui encore le plus vieux terrain de basket au monde encore en état. Mais là où le sport va réellement se développer, c'est bien entendu aux États-Unis, avec la fameuse ligue NBA, ou National Basketball Association, qui est créée le 6 juin 1946, qui a donc fêté ses 75 ans l'année dernière. Les années 60 voient éclore plusieurs joueurs aujourd'hui légendaires. L'arrière des Lakers, Jerry West, le meneur Oscar Robertson, le pivot des Celtics, Bill Russell, 11 fois champion NBA, et qui révolutionna la manière de pratiquer la défense.
À chaque chronique, il donne plein de noms, il pourrait donner des noms de machines à laver, on dirait oui. Tu peux inventer ce que tu veux, hein, parce que là, on ne sait pas du tout. Hein.
Exactement. C'est ce que je fais d'ailleurs.
Ouais.
Attention,
on connaît, c'est quoi, Johnson, il y en avait un qui est le plus connu.
Bill Russell, vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il est, alors c'est triste, hein, mais il est décédé le 31 juillet dernier à l'âge de 88 ans.
88
ans.
Voilà. LeBron James.
Ouais, il y a LeBron James, oui, aussi. Ouais. Ça, on en parlera un peu plus tard.
Bon, tu vois.
Il y a aussi Will Chamberlain qui a le record de points inscrits dans un match avec 100 points contre New York.
Il était tout le temps dans le panier, lui. C'est pas
possible. Oui, non, mais il était très très grand, très très fort. Enfin, voilà, c'est... Mais ils ne sont pas les seuls. Plus tard, d'autres joueurs marcheront dans leurs pas, ou plutôt dans leurs dribbles, pour continuer à hisser ce sport. Parmi eux, donc, on parlait de Magic Johnson. Il y a Dennis Rodman aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il sortait avec Madonna pendant un moment.
Ah ouais, tout de suite, comme ça, on comprend mieux. Tu vois. Si tu as des références vraiment très sportives, tout de suite, on comprend mieux.
Ou encore Kobe Bryant, qui est lui aussi décédé il y a 2 ans d'un accident d'hélicoptère.
Lui aussi, c'est-à-dire que celui d'avant aussi ? Non.
Il est décédé, il a 80 et quelques, l'autre.
Ah, il a 80 ?
Non, 88. Le premier qu'il a cité, il est mort très vieux.
Ah oui, d'accord, ok.
Et celui-ci, il est mort il y a 2 ou 3 ans.
Mais plus jeune.
Il avait une quarantaine d'années.
41, je crois.
Donc le sport, c'est pas bon pour la santé.
Moi, je l'ai toujours dit, le sport, c'est mauvais pour la santé.
Alors lui, il est en hélicoptère. Donc,
oui, c'est pour ça, ouais, on dit ça.
Comme quoi, les jets, les hélicoptères.
Voilà.
Ah, pardon.
Bisous à Mbappé. Bref. Le tout sans parler de Michael Jordan, voilà, considéré comme l'un des sportifs les plus connus au monde. Qui a participé à l'explosion du basket dans le monde entier, notamment avec son équipe des Bulls de Chicago, avec qui il remporta deux fois 3 titres consécutifs, donc 6 en tout, mais aussi avec la fameuse Dream Team des JO 92, je sais pas si ça vous dit quelque chose, considérée comme la meilleure équipe de basket de l'histoire. Alors il n'y a pas que les Américains, nous aussi en France, on a
des stars. Oui, pareil, qu'on a des stars en France.
Je veux évidemment parler de Tony Parker, le premier Français à réellement se démarquer dans cette ligue très américaine au début des années 2000. Il gagne 4 titres NBA avec son équipe des San Antonio Spurs et finit une fois MVP des finales. Alors MVP, ça veut dire Most Valuable Player, donc en gros c'est quand t'es le meilleur joueur, quoi.
D'accord.
Donc il finit MVP des finales une fois, c'est une distinction qui est très importante en NBA. Aujourd'hui le basket il est beaucoup moins américano-centré et de nombreux joueurs européens s'incrustent parmi les meilleurs joueurs américains. Le basket est donc passé d'un sport universitaire à un sport national pour devenir un sport international très important dans la culture sportive, mais aussi dans la culture tout court. Si Nike est aujourd'hui une marque aussi importante dans le monde de la mode, c'est en partie dû à Michael Jordan, on revient à lui, qui signe un contrat avec Nike en 1984, alors qu'il est au début de sa carrière, et il permet à celle-ci de s'imposer en même temps que son sportif fétiche parmi les grosses marques de chaussures. Donc les paires étiquetées Jordan, parce qu'il y a une filière Jordan, sont les chaussures aujourd'hui les plus célèbres au monde. Hein,
les Air Jordan.
Les Air Jordan, etc. Ça, et en fait,
on appelle les baskets.
Les baskets,
c'est parce que ça a un rapport avec ce sport.
Exactement. Hein,
c'est carrément vraiment lié à la chaussure.
Et c'est le monde de la sneakers, etc. Ça vient de cette période-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouaient pas au basket qui s'achetaient des Jordan parce que c'était Jordan.
Bah oui, on porte tous des baskets sans jouer au basket. Hein.
C'est ça. Alors oui, le basket, c'est compliqué avec tous ces systèmes de jeu, ces termes techniques, fade away, spin move, step back, pick and pop, poster, post-up, et j'en passais des meilleurs.
Ah ouais, bah non,
les hoops, il y en a plein d'autres. Hein. Mais c'est un sport aussi technique que spectaculaire et passionnant, mais je n'aurais sûrement pas pris goût à ce sport sans certains qui transmettent leur passion du basket. C'est pourquoi, pour conclure cette chronique, j'aimerais passer un petit coucou à Alex de l'équipe de Trash Talk qui est en juin et qui a écrit avec son équipe un formidable bouquin sur l'histoire du basket, sobrement appelé le plus grand livre de basketball de tous les temps, selon Trash Talk, que je vous conseille vivement de lire, si toutefois vous avez une place de parking attitrée pour ce livre, car il est réellement gigantesque.
Pour le virement, t'as reçu mon RIB, c'est bon ?
Ouais.
Ok, c'est parfait, merci. Petite publicité, c'est petite fait, tu l'as placé.
Voilà, pour Alex.
Bon. Eh ben, écoute, bonjour Alex, t'as bon, bien
en
raison.
Mais
il est en juin
voilà.
En plus.
Juin, c'est à un moment donné, il faut les produits en juin.
Mais ouais. Le cinéma aussi a pris beaucoup dans le basket, il y a eu pas mal de films.
Ouais, Space Jam, c'est pas forcément les meilleurs films.
Non, mais ça parle de basket.
Avec LeBron James, justement.
Oui, très bien. Merci en tout cas, Nicolas. Dans un instant, on se réveille pour faire l'amour avec les arbres. Mais là... Ah oui, c'est du teasing, hein, je vous le dis. C'est la pause. Et alors, c'est la pause qui a été choisie par Olivier.
Sébastien et Nicolas sont en juin et ils forment le groupe Rookin'. Ils ont sorti leur premier album fin août dernier, mais ça fait quand même 8 ans qu'ils tournent. La chanson qu'on vous propose, c'est Dame du Pic. Et on y retrouve le bon goût de la poésie légère. Voici le duo en juin, Rookin' dans CM1.
Avant j'enchaînais les ex, gentiment je faisais passer le sexe, les centimètres avant les sentiments. J'enchaînais l'amour sous plastique, je te fais mon autocritique sans te mentir, je baisais sans rien sentir. Avais-je besoin d'une bonne leçon le jour où tu m'as pécho? Je me suis laissé pêcher, comptant le poisson. En apnée s'embrasser, tu sens bon pendant des heures et des heures. J'ai pu goûter âme sœur, ton âme son. Pour une fois que je m'ouvre, que je me laisse aller. Romantique, romantique. C'est toi que je découvre, et ta note est salée. Dame de pique, dame de pique. Tu n'avais jamais été solo, après quoi tu courais, toi? T'as toujours enchaîné les salauds, mais c'est pas dans la boue qu'on se nettoie. J'suis pas Orphée, j'suis pas un ange, j'suis pas non plus un animal. T'as tellement morflé que ça te change d'être avec un mec un peu normal. T'es une elfe, je suis un orque, t'es mon précieux. T'as le cœur tombé du semi-remorque sous les essieux. Cabossé des bleus jusqu'à l'âme, tu ne t'en rends même pas compte. Même ma douceur, t'angoisse et sans drame, ou ta colère qui remonte. Pour une fois que je m'ouvre, que je me laisse aller. Romantique, romantique. C'est toi que je découvre, et ta note est salée. Dame de pique, dame de pique. Tu te barres, tu reviens, tu fais demi-tour. Je me sens essoré et sur 2000 tours. Quand on baise, putain, ce que c'est bon. Un peu d'amour, les phéromones font le reste. C'est con, mais faut se faire une raison. Qu'on se quitte avant qu'on se déteste.
Qu'on se quitte avant qu'on se déteste. Qu'on se quitte avant qu'on se déteste. Qu'on se quitte avant qu'on se déteste. Qu'on se quitte avant qu'on se déteste. Qu'on se quitte avant qu'on se déteste. Que je me laisse aller. Romantique, romantique. C'est toi que je découvre, et ta note est salée. Dame de pique, dame de pique.
C'était Rookin' avec Dame de Pique à retrouver sur leur premier album Masculine. Alors donc on m'a dit il y en avait un qui était Choletais et l'autre qui était de Laval, Mayennais. Voilà, donc et le grand débat c'est est-ce que Angevin ça veut dire qu'on est d'Angers ou du Maine-et-Loire. On vous dira ça dans une prochaine émission. Vous êtes toujours dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Si vous avez raté le début de l'émission, sachez qu'elle est disponible sur radio-g.fr, rubrique émission CMA. Voici le sommaire de la deuxième partie. Il vient de loin, mais il menace de tomber. Il veut s'affaisser. Bonsoir Titouan.
Bonsoir. Merci. Merci.
Qu'est-ce
beaucoup.
Qui te branche ce soir?
Un arbre.
Un arbre.
Un très très gros arbre.
Oh.
Un arbre énorme.
Gourmand. Mm. C'est les rentrées et les matins sont difficiles. Fini les grasses mats et c'est de sa faute. Bonsoir Sandra, tu es remontée ce soir?
Oui, je suis remontée.
Ça, c'est la rentrée, hein. Sandra, c'est elle n'était pas là pendant cet été. C'est dur. Hein.
Voilà, c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est la rentrée, donc voilà, c'est l'heure de se réveiller.
Ok.
On va voir ce que ça va donner.
La pilule est difficile à avaler, c'est toujours la même qui s'y colle. Il est temps de couper court à ce diktat. Bonsoir Manu, on parle de quoi ce soir?
On parle de la contraception masculine.
Et ça a du mal à passer la pilule.
Et ça a vachement de mal à passer.
Je vois ça, ouais.
Voilà.
Et enfin, avec le Graal, on se rappellera du top 50. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de CMA. Avec le tram, les temps sont durs pour les arbres de la ville. Pourtant, l'ex-maire, aujourd'hui ministre de l'écologie, l'a promis, pour un arbre coupé, un arbre planté. Alors soyons heureux, dans 50 ans, on aura de beaux arbres. Pourtant, certains ont un traitement particulier. C'est ce qu'on va voir avec la chronique de Titouan.
Sous mon arbre, je me balance. Je me repose loin du cours des choses. Sous mon arbre, je me balance.
Et donc on parle pendant le jingle, mais donc c'est Julien Clerc, tout à fait.
Voilà, Julien Clerc, enchanté.
Ok, y a du boulot, hein. Ouh là là, Sonia, reviens, s'il te plaît.
On va y faire appel. Donc on le connaît probablement tous, Bruno en a parlé, c'est le fameux arbre qui est en train de s'écrouler au Jardin des Plantes. On n'arrête pas d'en parler, c'est très très triste, c'est vraiment une catastrophe. Donc il est juste face à la grande entrée, derrière les immenses grilles de fonte. On le retrouve avec sa douceur et sa fraîcheur. Il est grand et majestueux et personne ne le rate. C'est d'ailleurs l'arbre le plus photographié du Jardin des Plantes. Et il est si vieux que même les angevins les plus anciens, du genre Bruno, quoi, le connaissent pas vraiment.
Bien sûr.
Donc il fait 33 mètres de haut, c'est, comme j'ai déjà dit, l'arbre le plus photographié du Jardin des Plantes, et on va comprendre pourquoi. Il est âgé de 140 ans, donc il est né en 1882, il a été classé remarquable en 2005, il fait un minimum de 26 tonnes, même si en réalité on s'approche plus des 50. C'est 14,5 tonnes de carbone pur et 52,8 tonnes de carbone absorbé au long de sa vie. J'ai fait les calculs, c'est plutôt juste.
Ça fait combien de par feuille?
C'est une très très
si
bonne question.
Si t'as fait les calculs, tu devrais savoir.
Combien de cahiers Clairefontaine ça devrait faire si on le coupe.
Prochaine chronique, je le dirai.
Okay.
Ou prochain Graal. Enfin bref. Il peut vivre jusqu'à 500 ans et il a été planté en 1905 à cet endroit-là par Édouard André lors de la recomposition du Jardin des Plantes d'Angers. En réalité d'ailleurs...
Édouard André,
ouais, Édouard,
ça doit être son nom,
le canard, nom, ouais, pas vraiment faire Édouard l'humain, mais André, voilà. Donc en réalité, c'est un arbre qui est originaire de l'Angleterre, mais il s'est très rapidement propagé dans l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Dans le sud de la France, on s'en servait surtout de son ombrage pour rendre justice aux délinquants.
Ah, on se rendait justice sous l'arbre, d'accord.
C'est ça. Mmh.
Oui, ça pourrait finir sur la corde, effectivement. Oui.
Également. Souvent, apparemment, ça finissait avec une corde. C'est un arbre très solide, on va voir pourquoi. Il a couvert la plupart de nos ancêtres. Il servait à la charpenterie, au moulin à eau, à toutes sortes de poulies dans la construction maritime, de roues. Et dans beaucoup de cas, l'orme, c'était la source de revenus principale des foyers de l'époque, quand on se servait de l'orme. Mmh. Ici, en Europe, on a aussi consommé ses feuilles en soupe, ses fruits et ses écorces quand on ne pouvait plus rien manger d'autre, et c'est très nutritif. Et sans orme, on n'aurait probablement pas été là. Car il était utilisé comme médicament. Mal de ventre, orme, diarrhée ou constipation, orme, mal de gorge ou tout, orme. Et comme
c'est ça. Ouais, ça fait une pub, ouais. Si je vais mine, j'ai... D'accord, ok.
C'est un peu ça. Et comme c'est un très bon anti-inflammatoire, il soigne aussi les maux de ventre, la fièvre, l'eczéma, les hémorroïdes, enfin, il fait tout.
Ouvrir une pharmacie au Jardin des Plantes
Alors, c'est carrément possible. Ouais. Tous les arbres du Jardin des Plantes font quelque chose, toutes les plantes du Jardin des Plantes font quelque chose. Et certains disent même qu'il soigne les cancers. Alors, par contre, n'essayez pas, on confirme pas vraiment la méthode.
Bah, tu m'étonnes.
Steve Jobs ne valide pas. Ah bon, vraiment, ah bah, alors, ah bah non, il a essayé. Bah ça a pas marché.
Oh, salaud. Oh, c'est méchant.
Mais il a un très beau jardin. Il a un très très beau jardin.
D'accord, ok.
Il est mort, quand même.
Il y a même une
anecdote. Il est mort d'un arrêt du cœur, pardon.
Il y a même une expression qui dit « Attendez-moi sous l'orme ». On vous laisse deviner la signification, nous on attendra Sonia. Les ormes sont d'ailleurs menacés par un champignon. Une dizaine d'espèces d'ormes sont au bord de la disparition, mais ce n'est pas la cause de la chute de notre orme à nous.
Ah oui, alors notre orme.
Eh bien, il est en train de s'affaisser à cause des pluies de l'automne dernier, qui étaient apparemment très intenses et qui ont tellement humidifié le sol qu'il a perdu prise. Enfin bref. Et c'est un arbre qui littéralement a tout connu. Il a connu la défaite de la France lors de la bataille de Woyowayanko. Alors, je sais pas où c'est, mais c'est en Afrique.
D'accord.
Voilà, et ça s'est passé. Il a connu la première démocratie du Costa Rica, les premiers bateaux à chambre froide, l'installation de l'éclairage public électrique à Berlin. Il est né en même temps que Franklin Roosevelt.
Je suis pas sûr qu'il savait, hein. Il a pas dû être informé, hein.
Mais je pense qu'il a vu du coup l'éclairage public aussi arriver à Angers.
À Angers, ouais.
Et il a vu beaucoup de choses, en tout cas beaucoup de monde. Il est né en même temps que Franklin Roosevelt, le président des États-Unis. La première étude sur l'alcoolisme a été faite l'année de sa naissance. L'enseignement primaire devient obligatoire cette même année.
T'as pris Wikipédia de l'année, quoi.
C'est ça. Et attendez, attendez, le Courrier d'Angers, qui est un très vieux journal, annonce la démission du ministre des Finances.
D'accord. Voilà. On dirait une chronique de Florian, c'est dingue,
c'est
ça.
Un peu ça. ou de Robin aussi.
Ou de Robin, ouais.
Mais bon, il a tout connu. Donc les guerres froides, les deux guerres mondiales, l'occupation allemande. Enfin, il a marié des milliers de couples. Pardon, peut-être juste des dizaines. Enfin, probablement des milliers, parce que tous les couples qui se marient à
en photo là-bas, ouais,
vont se prendre en photo juste en dessous de cette orme. Et donc c'est pour ça que ce serait vraiment très très triste de le perdre.
Mais alors, est-ce qu'on va le perdre ou pas?
Eh bien, peut-être.
Ah. Ah
ouais. Alors, il n'y a pas de pétition parce qu'en fait, c'est une question de sécurité. Pour le coup, un arbre qui fait 50 tonnes, qui s'écrase par terre, ça peut faire beaucoup de dégâts. On a essayé de le sauver, enfin, on est en train d'essayer de le sauver. Si vous allez le voir une dernière fois, vous verrez toutes ces poutres qui le tiennent. Mais on n'est pas sûr que ça marche. Et si ça ne marche pas, malheureusement, il deviendra une œuvre d'art et on plantera à la place un nouvel arbre de la même espèce, de la même essence.
Il faudra 100-300 ans pour que...
Voilà, donc je vous encourage tous à aller le voir une dernière fois, échanger un dernier regard, mais sans trop s'en approcher et dépasser des barrières, au risque qu'il vous tombe dessus, comme Bruno tombe sur les chroniqueurs un peu trop lents ou en retard.
Oh là là !
Ou on y va avec des gens qu'on n'aime pas, comme Bruno. Non, on regarde, on regarde.
Je crois qu'il se venge, il se venge.
Je suis essoufflé, j'ai couru.
Ouais, c'est ça, je vois ça. Merci, Titouan. On a envie de le frapper tous les matins. Non, enfin, c'est pas Titouan, puisqu'il a fini sa chronique. Il s'agit là d'une chose qui ne bouge pas et qui fait du bruit de temps en temps. C'est toujours pas Titouan. Bon, allez, voici la chronique qui nous réveille avec Sandra.
C'est bien vu, le clairon.
Ouais.
Donc, eh oui, les vacances sont finies, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée dit se réveiller. Donc souvent, bah, le réveil, c'est quand même l'ennemi numéro un pour ceux qui aiment les grasses mat. Donc j'en fais partie. Voilà. Je l'aime. Donc à chacun son réveil, on peut vouloir rester dormir dans les bras de Morphée ou sauter du lit précipitamment. Certains se réveilleront avec la sonnerie stridente du réveil matin ou la symphonie du smartphone. Voilà. Donc chacun, j'imagine, a une musique préférée sur son smartphone.
Je sais pas, on peut faire le tour de table, on y
ouais,
va.
Ouais, c'est ce que je pensais. Enfin, chacun...
Alors,
que
Titouan, chacun... tu travailles avec quoi?
La sonnerie par défaut de l'iPhone qui est très efficace.
Ah ouais très, ça très, fait très... comment? Ça chante comment?
C'est une très bonne question, j'en ai aucun souvenir. Je pense que mon cerveau l'efface automatiquement tellement c'est horrible.
Et il faut balancer le téléphone, il faut appuyer dessus pour que ça s'arrête faut...
Ah ouais, juste un bouton arrêté, ouais.
D'accord. Manu?
Alors moi ça dépend, si je suis du matin je mets la panthère rose, si je suis du soir j'ai une autre sonnerie, oui voilà c'est ça.
Ouais.
Et sinon si je suis en retard et je sais que je vais être en retard, j'ai Benny Hill.
Ah oui.
Voilà.
Ouais,
c'est pour essayer d'accélérer.
Donc, de la musique, oui. Ok. Caro, tu mets quoi?
La même que Titouan, c'est la sonnerie par défaut.
Du téléphone.
Ouais, ouais.
Ok, Nico.
Bah, c'est une alarme de sous-marin, comme ça au moins je suis sûr de...
Ah oui, c'est pas mal.
Ah oui, je vois laquelle c'est. Juste rapidement, Florian, parce que t'es là, tu peux nous dire...
Moi, c'est la radio.
C'est la radio, quelle radio?
C'est un beau réveil avec la radio dessus.
Oui.
Je crois qu'il y avait Radio G un temps.
Ah ouais, vas-y. Eh ben ouais, il faut être... être avec Fayot, ouais.
Moi, du métal.
Ah, du métal ça, le matin.
Ah, ouais. Ah bah là, le matin. Ça réveille. Là.
Ah, bah, ah, c'est marrant, c'est je pensais pour dormir, moi. Donc, c'est...
Ah bon
voilà. Pendant un moment,
bah, bah, oui. Bah, moi, c'est plutôt. Non, plutôt
Olivier, tu te réveilles tout seul, toi, pendant
une musique un peu douce. Quand
ouais,
même.
Non, réveille, il pas, se réveille tout seul, il a réveillé dans la tête.
Chacun son style.
Très bien, voilà. Donc maintenant, c'est tout. Merci.
Donc de même, on ne se réveille pas de la même façon si on habite en ville ou en campagne. Il est 5h, Paris s'éveille, tout le monde connaît cette chanson de Jacques Dutronc.
C'est vrai.
Donc en ville, les bruits des camions poubelles, des commerçants qui ouvrent leur commerce, qui ouvrent, enfin, vous avez compris, les volets, du flux de voitures, suffit à nous réveiller avant l'heure. Tandis qu'en campagne, on aura tendance à se fier au lever du soleil et au chant des oiseaux.
Et du coq.
Et du coq, évidemment, je vais y venir. Mm-hmm. C'est d'ailleurs le meilleur réveil naturel avant l'invention du réveil matin, c'est-à-dire vivez au rythme du soleil d'abord, puisque... en fait, la luminosité nous guidait en fait de l'aube au crépuscule en fait. Donc, nos heures de lever et d'endormissement étaient par rapport à la luminosité. Quoi,
ouais, mais alors du coup, ça veut dire qu'en hiver, on dormait pas beaucoup. Ou non, on dormait beaucoup et en été, on dormait pas beaucoup.
Oui, mais en même temps, oui, on était vraiment. Les cultures, c'est l'été. Oui.
Il fallait se caler quand même.
On était calé, oui, bah oui, oui. Enfin, en fait, avant le réveil matin, enfin, nos heures étaient. C'était un peu flou, enfin, la précision
oui,
de l'heure
ça.
Était...
Pour un rendez-vous, voilà. C'était un petit peu compliqué. Quoi.
C'est ça. Donc, ensuite, évidemment, bah, quand, le chant du coq, c'est plutôt dans les villages, en fait. Donc, le chant du coq, lui, il réveille avant l'aube, un petit peu avant l'aube. Et donc, impossible de l'ignorer, puisque son cri est strident et peut atteindre 60 décibels. Donc, et d'ailleurs, le coq, c'était le symbole du passage de l'ombre à la lumière.
C'est beau. Enfin, il lui arrive aussi la journée de le faire. Et c'est pas que le matin. Des fois, il est un petit peu chantant tout le temps. Quand il drague, ça y va.
Ah oui.
Quoi. On a l'impression que c'est le matin tout le temps. Quoi. C'est vrai, les coqs. Vous n'êtes pas de la campagne. Vous,
hein. Bah non,
moi j'entends les poules, mais pas le coq.
Ouais,
ah,
le coq, j'ai jamais vraiment entendu.
Si, la journée, on peut l'entendre. Ah oui, si, quand même.
D'accord.
C'est radical quand même.
En tout cas, chaque année, on a des Parisiens qui se plaignent qu'effectivement, il y a du bruit.
Oui, mais ils se plaignent des tracteurs, de l'église.
Les cigales. Éteignez les cigales, je suis en vacances, bordel.
Autre méthode naturelle, et peut-être un peu insolite, c'est buvez beaucoup d'eau. Quand on boit beaucoup d'eau, qu'est-ce qui se passe?
On a envie d'aller aux toilettes.
Et voilà, c'est ça. Donc, on se réveille naturellement pour uriner à un moment donné.
Ou alors, trop
c'était
tard.
C'était l'idée.
Ouais, généralement, on préfère
utiliser
c'était
une méthode
sa,
naturelle,
sa
disons, quand il n'y avait pas le réveil n'existait pas, hein, d'accord ouais. Donc, voilà, c'est une façon de se dire, de se réveiller tôt le lendemain matin, si je bois beaucoup, voilà, oui.
Ah ouais, d'accord, c'était vraiment une vraie méthode.
Oui, c'était une vraie méthode.
Okay.
Le premier réveil matin était une horloge hydraulique, en fait, donc horloge à eau, appelée la clepsydre.
La clepsydre, oui. Voilà. Bah oui, Fort Boyard.
Ouais, voilà.
Des références, oui. Historique.
Donc c'était 300 avant Jésus-Christ, ça a été créé en Égypte. Alors soi-disant Platon, en fait, en aurait fait un instrument pour se réveiller. C'était un appareil qui ressemblait au sablier, sauf qu'en fait c'était de l'eau en fait qui s'écoulait.
Mais enfin, ça sonne pas à la fin.
Eh ben non, au début alors ça sonne pas. C'est comme un récipient qui permet de calculer l'heure.
C'est ça.
Je peux pas vous dire comment vraiment. Et ensuite il y a alors il s'appelle Ctésibios qui 50 ans plus tard, donc 250 avant Jésus-Christ quand même, améliore le système. C'est-à-dire l'eau en fait permet de faire tomber des galets sur une cymbale à une heure précise.
D'accord.
Et il invente la première horloge mécanique du monde. Un peu bruyante, faut bien l'avouer. Mmh. Donc,
mais au moins, ça fait du bruit.
Voilà. Et il y avait plus. Voilà, il y avait les galets, mais il y avait aussi. Enfin, ça pouvait être une troupe, une sorte de trompette qui pouvait sonner aussi.
D'accord.
Avec l'eau, voilà, à une heure précise.
Ah
je
oui.
Sais pas,
beaucoup d'imagination.
Le système, voilà. Je peux pas vous l'expliquer comme ça. Donc, une autre façon de se réveiller, eh bien, c'était les cloches, parce qu'avant, la vie sociale se calait sur le temps religieux. Donc les cloches rythmaient aussi la journée, c'est-à-dire avec ce qu'on nomme l'Angélus, c'est la prière de l'ange, l'Angélus. Donc celle du matin était à 7h05, après il y en avait une à 12h05, et l'autre était à 19h05. Donc et ça rythmait comme ça la journée en fait. On l'entend encore des fois les cloches, enfin maintenant je crois que les cloches elles c'est aussi toutes les
heures.
Toutes les heures, hein, ouais, c'est
heures
ça.
Heure, ouais. Mais c'est plus long, Angélus, donc du coup, on a le temps de bien se réveiller.
C'est ça. Donc l'autre technique très utilisée, alors de 960 quand même au XXe siècle, alors, c'est ce qu'ils disent, c'est les bougies tout simplement.
Ça fait pas énormément de bruit. Hein.
Vous dites ça non, fait... alors ça fait pas énormément de bruit.
Vous dites Monsieur, vous dites à qui vous me parlez à moi? Je suis en train de faire ma chronique, s'il vous plaît. Excusez-moi, je ne te dérange plus. Vas-y, vas-y.
Bah, ça, en fait, c'était une technique pour que ça fasse du bruit, évidemment. C'est une bougie, en fait, graduelle. Enfin, vous imaginez une bougie, et puis il y a des traits dessus. D'accord.
Jusque-là, ça va.
L'heure, en fait. Oui. Donc, deux,
mais à quel moment ça fait du bruit?
C'est ça.
Au moment où, en fait, tu choisis, en fait, le trait. Tu choisis si ça va être à deux, à trois ou à quatre heures, ouais. Tu vois, ouais. par rapport au trait que tu auras mis sur la bougie. Et du coup, tu mets une bille dessus. Ah, voilà,
et elle va tomber.
Et voilà, et quand ça fond, ça va tomber. Et là, ça fera... Voilà, ça va
donc,
venir,
un réveil programmable.
Il y aura 4 heures. 4 heures sera passé si tu l'as mis à 4 heures, par exemple.
D'accord.
Tu vois, on n'a pas besoin d'électricité. C'est bon pour cet hiver, ça.
Voilà. Oui, alors...
Il va tomber sur une... J'aurais un peu peur des feux, quand même. Hein. Oui, voilà. Mais ouais. À l'époque, c'était vraiment la chose la plus utilisée, même si les bougies étaient encore très chères. Ouais. Étaient chères aussi pour...
D'accord.
Enfin, au Moyen-Âge, quoi. Voilà. Les bougies n'étaient pas forcément accessibles à tout le monde. Vous y pensez. Donc, et c'était la solution la plus précise à l'époque. Hein.
Ok.
Ensuite, y a eu l'horloge à poids au XIIIe siècle qui est apparue en Italie. Donc, les poids tombaient et tiraient sur la corde, ce qui déclenche le mécanisme.
Oui, comme avec les ressorts après, effectivement. Voilà. Ouais. Mm-hmm.
Donc, on peut régler à une heure fixe, là, il n'y a pas de problème. Et. Ensuite, y a eu aussi les montres à ressort qui sont arrivées. Les montres sont arrivées avant le réveil matin, quand même. Donc, les montres à ressort en 16e siècle.
Et elles sonnaient.
Elles sonnaient,
ouais. Les montres aussi, d'accord. Ouais. Ok.
Ensuite, est-ce que vous avez d'autres idées
De réveil. Il y a le fameux réveil avec, qui fait ding-ding-ding avec les deux...
Ah bah oui, celui-là.
Les enfants.
Ah oui, alors ça c'est efficace.
Très efficace.
Mais la programmation est super dure.
Ouais.
Super dure la programmation, surtout au début quand on l'achète.
Moi j'avais super bien programmé mon enfant.
Ah ouais, c'est vrai
ouais, du coup il ne nous réveillait pas.
D'accord, d'ailleurs il s'endort en ce moment. Et en face, il dort déjà. Ouais. Et pour finir, du coup.
Alors bien, en Angleterre et en Irlande, en fait, il y avait des. Ça s'appelait les knocker uppers, des cogneurs professionnels qui étaient équipés d'une tige de bambou et qui frappaient aux fenêtres des clients pour les réveiller. Un peu comme un concierge à domicile, en fait.
D'accord.
Mais qui les réveillait eux?
Donc ça, c'était en Angleterre et en Irlande. Après, vous avez dans les années 1850. Des sirènes d'usine. Les sirènes d'usine, en fait, les ouvriers vivaient
autour,
des,
donc
des
du coup,
usines.
On les appelle direct. Oh,
et
le
les ouvriers n'avaient pas le. Enfin, réveil matin coûtait très cher aussi à l'époque.
D'accord, donc la sirène, d'accord, tout le monde. Pfft,
donc c'était super. Les sirènes, donc ils réveillaient tout le monde. Donc le réveil était brutal. Hein.
Ouais, c'est clair.
Et enfin, vous l'attendez tous, donc le fameux réveil matin.
Oui.
Il fut créé par un Américain, Levi Hutchins, un apprenti horloger.
C'est le copain de Starkey.
En 1787, et il a été breveté en 1876 par James Reynolds. Et donc, il fut produit en masse seulement à partir des années 1940.
D'accord, donc c'est assez récent.
Donc c'est assez récent. Et finalement, après, il y a eu le radio-réveil, et évidemment, dans les années 2000... Le smartphone,
etc.
Voilà, donc
etc.
On passe en fait d'un réveil mécanique à un réveil électronique, on va dire. Et donc, pour finir, mon petit secret, moi, pour un réveil naturel et matinal...
Je ne dors pas.
Non, adopter un chat.
Ah, c'est pareil, tu vois, il y a les enfants, mais c'est vrai, voilà. Les chats aussi, le matin, effectivement, ça peut faire beaucoup de bruit. Merci, en tout cas, Sandra. La tendance est dans l'égalité homme-femme, et ce, dans tous les domaines, y compris ceux qui étaient jusqu'à maintenant une exclusivité féminine. Elle est pour l'égalité des sexes et n'est pas contre à prendre les mesures. Voici la chronique de Manu.
On peut les noyer, on peut les étouffer, on peut les brûler, on peut les congeler. Mais le meilleur moyen de les éviter, c'est de s'en protéger.
Tintin.
On parlait des enfants, évidemment.
Ah bon?
Alors aujourd'hui, je vous parle de contraception masculine, de la petite pilule pour vous les hommes, qui seriez amenés à réfléchir aux conséquences avant de niquer. Alors ce sujet revient sur le devant de la
Attends,
scène.
Attends, peut-être un petit message. Maman, C'est la chronique de Manu.
Voilà. Ah oui, excuse-moi Françoise, je ne t'ai pas prévenue. Alors Françoise, attention, je vais dire des gros mots dans ma chronique.
Ça s'est déjà commencé. Ouais.
Voilà. Alors ce sujet revient sur le devant de la scène très régulièrement, mais les avancées sont lentes, très très lentes. L'approche resterait la même que pour les femmes. À savoir la nécessité avant toute prescription d'avoir la démarche de conseil et d'accompagnement qui doit être adaptée à l'âge et aux besoins. Très bien. Mais concrètement, à quel âge peut-on estimer qu'un homme est adulte ? C'est une question rhétorique qui n'appelle pas de réponse. Faire réfléchir sur les conséquences d'une grossesse non désirée, bah oui, mais en vrai, qui prend le plus de risques à ne pas prendre de contraception ? Personnellement, j'ai plus souvent entendu parler de la mère qui se retrouve célibataire, un bébé sur les bras, plutôt que l'inverse. Mmh. Et enfin, informer sur la contraception d'urgence et ses modalités d'accès, ça concerne vraiment plus la femme que l'homme. Une fois la cartouche tirée, bah il est trop tard, on peut plus remettre le dentifrice dans le tube, ça marche pas.
C'est joli, c'est joliment dit.
Oui, c'est, je vous fais de la poésie.
Je vois.
Ouais. C'est vrai. Ouais. À ce jour, quand on parle de contraception masculine, de quoi parle-t-on exactement ? Trois méthodes sont utilisables chez l'homme, enfin trois méthodes aujourd'hui qui sont approuvées, parce qu'effectivement, il y en a d'autres qui ne le sont pas encore. Le préservatif masculin qui ne protège pas que des bébés. Ça protège aussi des IST. Oui. La vasectomie, qui aujourd'hui encore présente un inconvénient majeur car elle n'est pas réversible. C'est pour cela qu'un délai de réflexion de 4 mois est laissé avant intervention. Mais 4 mois sans niquer, c'est un peu long. Et enfin, le retrait dont on voit le résultat même autour de cette table, je vous l'apprends peut-être, enfin plus maintenant. Mais je n'étais pas désirée, d'où les rubriques sur le suicide des années précédentes. Voilà. Okay. Alors depuis quelques années, il y a des progrès dans la recherche, mais pas dans la vraie vie. Donc, comment ça marcherait ? Les chercheurs ont mis au point des mini-protéines ou des peptides capables de pénétrer les spermatozoïdes, chose assez difficile, et de modifier leur fonctionnement. Voilà. Alors précisément, les peptides agissent sur la mobilité des spermatozoïdes avec, à la clé, la possibilité de les bloquer lors de l'éjaculation. Reste néanmoins à convertir ces protéines en pilules stables et efficaces.
C'est-à-dire qu'on va tous les garder, quoi. Ils vont tous je sors pas, tranquille,
ouais,
je reste.
C'est ça, exactement. Okay. Alors, pas facile d'immobiliser, voire de neutraliser ces petites usines à gènes, mais ce n'est cependant pas le plus difficile. L'un des principaux obstacles à une pilule masculine est la réversibilité, encore et toujours. Une fois prise, la pilule ne doit pas avoir d'effet à long terme sur la fertilité et la libido. Bah oui, parce que quand Bobonne est bonne, on fait les trois gamins, on rigole, tellement qu'on n'en veut plus après. Un test de contraception hormonale masculine par injection a été mené sur 320 volontaires. Les résultats sont pourtant encourageants. Les injections de progestérone ont réduit la production de spermatozoïdes dans 96%.
Ah oui, donc c'est quand même très efficace.
C'est quand même très efficace.
Et donc dès qu'on arrête, ça reprend.
Mais le problème principal, c'est pas de figer pépé spermato. Figurez-vous que malgré les nouveaux essais prometteurs, la commercialisation d'une pilule contraceptive pour les hommes dans les prochaines années reste bloquée par des préjugés sociologiques. Selon un sondage CSA réalisé en 2012, 61% des hommes affirment qu'ils seraient prêts à prendre une pilule contraceptive si elle existait. Quant aux femmes, bah on leur a pas posé la question, en tout cas, j'ai rien trouvé à ce sujet. Mais voilà, ça c'est du déclaratif. Quand on y regarde de plus près, les hormones, ça a quand même beaucoup d'effets secondaires désagréables. Mmh. Bah oui. 45% des hommes ont présenté de l'acné, 38% ont dit sentir leur libido augmenter, je vois pas comment ça les dérange, mais enfin bon, 23% ont souffert de douleurs à l'endroit de l'injection. Alors je rappelle que l'injection ne se fait pas dans le zizi mais ailleurs, et pourtant ils ont très très mal ces petits bichons. 17% ont mentionné des troubles émotionnels, sautes d'humeur, dépression, agressivité. De fait, les essais ont été abandonnés avant même d'envisager un passage du vaccin à la pilule.
Bah si ça se vend pas, c'est sûr que les laboratoires vont pas s'en mettre.
Bah oui, un abandon qui peut paraître assez étrange étant donné que la pilule pour femmes entraîne elle aussi des effets secondaires dérangeants, nausées, prise de poids, crampes abdominales, beau tête, ce qui n'empêche pas de la commercialiser. Mmh. Bah alors pourquoi ? Bon, on est encore loin de l'égalité, alors les hommes prêts à avaler la pilule ou...
On ne sait pas. D'accord, après il y a d'autres solutions.
Voilà, et c'est comme ça que je m'arrête.
Mais il n'empêche qu'on entend de plus en plus parler de personnes. Moi j'ai des amis autour de moi qui ont envie aussi de passer à cet acte-là et tout. Donc ça rentre quand même un petit peu plus dans les mœurs quand même. Hein. Ouais, ça commence un petit peu. Puis les hommes se rendent compte qu'effectivement, même quand ils vont voir à droite à gauche, bah, ça peut être bien aussi que ce soit eux qui soient un petit peu protégés. Et que voilà, ils ne s'aiment pas partout.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé à cet argument, dis donc.
Ben oui, mais t'inquiète pas, eux, ils y ont pensé. Okay. Merci Manu.
Ah, je vous en prie.
Julie se demande si le top 50 existe encore. Voici la réponse du Graal.
Question de Julie. Ça existe encore le top 50 ? Oui, mais uniquement comme classement sur Internet. L'émission télé qui a marqué toute une époque s'est arrêtée il y a déjà 30 ans. Ah, le Top 50, émission mythique au lancement de Canal+, en 1984. C'est le classement des meilleures ventes de disques, 33 tours et 45 tours. Eh oui, ce n'était pas encore l'ère du CD, et encore moins du streaming. C'était une façon objective de faire un hit parade. Le problème, c'est que les goûts musicaux de la population n'étaient pas vraiment les mêmes que ceux des professionnels du secteur. Ainsi, on a eu de la Danse des Canards et du Licence 4 en première place de nombreuses semaines. Si aujourd'hui le Top 50 n'est plus un programme télé, le Snap édite toujours, toutes les semaines, les meilleures ventes de musique. Et si les vieux sont bloqués dans les années 80, les jeunes ont repris la main sur un classement qui leur est propre, dominé par le rap. À retrouver sur vos plateformes de podcast en cherchant Question Graal. Il est temps de découvrir le CMA de la semaine. Ça a pas tapé aujourd'hui, hein, un petit peu quand même. Chaque semaine, un panel d'auditeurs vote pour la chronique qui leur a appris des choses ou qui les a le plus amusés. Celle qui a le plus de voix est déclarée CMA+, et se retrouve dans les podcasts plus CMA+, des meilleurs moments de l'émission. À la dernière émission, nous avons parlé vous vous souvenez, du LSD, des places des femmes dans l'histoire, des drag queens, du Vendée Globe, des bureaux et du marchand de sable. Alors d'après vous, qui aurait pu avoir... Le machin.
Le LSD.
Les drags.
Le LSD.
Le LSD. Mmh. Ah, vous voyez,
Vendée Globe.
Vendée Globe ici. Eh bien, le gagnant
eh bien, nous a fait faire de beaux rêves, puisque c'est Olivier avec le Marchand de Sable. Bravo. Bravo, tu gagnes ton CMA+.
Félicitations.
Merci à nos chroniqueurs du jour, Robin, Nicolas, Manu, Sandra, Caro, Titouan. Et merci à notre public, Florian et Olivier. On se retrouve...
Un public en délire.
Ah ouais, en délire. On se retrouve dans 15 jours, même heure et même endroit. Bisous. Et d'ici là, n'oubliez pas, on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.